La Poche Bleue, une présentation de La Cage chez vous et TotoHebdo.net.
Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. La formation de départ, The Starting Lineup, le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume La Tendresse.
Quel bonheur en ce mercredi soir de retrouver Maxime et Guillaume alors que l'espoir, la lumière pointe à l'horizon de la reprise possible des activités dans l'hockey professionnel ces prochaines semaines. Bonsoir Guillaume.
Salut Mario.
Et bonsoir Maxime.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va bien vous autres les gars?
Très bien.
Ça va,
très
ça va.
Good, good. Ben, moi d'entendre parler, veux pas, même s'il nous reste bien des choses à régler en matière de santé publique, là, on est là pour parler de hockey quand même principalement, de savoir que les joueurs et la Ligue, on parle de la Ligue nationale, parlent d'un retour au jeu pour le 1er janvier, d'un calendrier de 60 matchs, d'une Coupe Stanley attribuée quelque part à la mi-juillet. C'est pas idéal, mais c'est mieux. T'sais, on progresse tranquillement dans le recadrage du calendrier, qu'on se dirige vers une division canadienne compte tenu des problèmes à la frontière. Mais ça m'encourage. Maintenant, il y a une grosse question. Les gars, vous êtes des joueurs professionnels, d'anciens joueurs professionnels, Guillaume. Est-ce que les joueurs vont accepter qu'on reporte une partie de leurs revenus? On leur demande de reporter un... pas d'annuler ou de couper, de reporter des revenus. Un 13 % de plus. Ils étaient à 72 % de leur salaire. On leur demande de déférer un autre 13 %. Est-ce que ça va passer, ça?
Moi, Mario, de mon côté, je crois que... 13 % c'est quand même beaucoup, mais du côté des joueurs, je me place dans leur situation. Tu sais, ce qu'on veut là au final comme joueur, c'est d'aller sur la glace. Et tu sais, les gars font de bons revenus, font de bons salaires. Je crois que le but premier des joueurs, c'est d'être sur la patinoire, de réussir à avoir leur gagne-pain, puis de créer l'engouement autour de la Ligue nationale, de ramener les partisans, de ramener l'amour de la game, puis d'être capable de recréer ce qu'on avait réussi à faire dans les dernières années. Tu sais, je trouve que dans les derniers 5 ans, la Ligue nationale a vraiment pris son envol au niveau des écoutes, au niveau de l'amour, au niveau de la télé américaine. Puis je pense qu'on peut pas perdre ça. Il y a des marchés qui se sont créés, il y a des marchés qui ont grossi. Puis je pense que le 13% en différé qu'on va recevoir plus tard pour les joueurs, ça peut pas être dans un sens négatif. C'est de l'argent qu'ils vont recevoir, c'est de l'argent qui va faire en sorte que ils vont payer, ceux qui vont tomber à retraite vont payer moins d'impôts parce qu'ils n'auront plus de rentrée d'argent aussi grande, ils vont avoir un montant. Donc c'est tous des calculs qui doivent être faits chez les joueurs, mais il reste que pour les équipes, on doit penser aux équipes aussi là-dedans. On ne demande pas de couper le salaire, on demande de le différer. T'sais, il y a des signing bonus, corrige-moi si je me trompe, mais il y a des signing bonus à payer quand même du côté des équipes.
Oui, oui.
Il y a du cash flow à avoir. On voit la situation qui est arrivée avec les hôtels, puis les Oilers Edmonton, le cash flow qui est peut-être plus de misère. Donc, du côté des joueurs, je pense qu'on doit coopérer puis accepter cette demande.
Max?
Ben, je pense que les joueurs, justement, comme Guillaume le mentionnait, comprennent que c'est pas une situation comme les lockouts qu'on a vécu ou une grève ou quelque chose du genre. Je pense que tout le monde sait que c'est une situation particulière, qu'il faut garder la Ligue nationale de hockey en santé. Je pense que les deux côtés sont prêts à s'ajuster pour aider un et l'autre. Je pense qu'on le sait là, la pandémie et tout ça, c'est pas normal, c'est pas régulier. Puis les joueurs vont trouver le moyen justement en se faisant payer plus tard dans le futur. Mais moi, je pense qu'on va trouver une entente, une façon de s'arranger justement. Je l'ai vu un petit peu de mon côté là en Allemagne, de côté hockey professionnel. On nous demande de prendre des réductions de salaire. Et puis tout ça pour essayer d'accommoder les propriétaires. Guillaume parlait là, d'argent qu'on dit en anglais, le mot cash flow, là,
les liquidités.
L'argent cash pour les propriétaires de payer. Je pense que les joueurs en Allemagne, par exemple, ont décidé d'aider les organisations et tout ça pour justement être capable à un moment donné d'avoir une saison. Puis je crois qu'on va faire la même chose du côté de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il y a moyen... pour une fois, justement, d'être une équipe, les joueurs, la Ligue nationale, je pense que ça l'aide aussi, la relation entre Gary Bettman puis Donald Fair, je pense que on l'a vu dans les dernières années, on voit qu'il y a une certaine complicité de ce côté-là, puis je pense que ça va porter fruit dans une situation que je considère aussi dramatique, le côté sportif cette année.
Ouais, je pense qu'il y a un climat de collaboration qui s'est installé là depuis des mois déjà entre les joueurs et les propriétaires. Je vois quand même un commentaire chez nos amis de RDS de David Perron qui disait que le stylo n'a pas encore séché là par rapport à l'encre du dernier contrat, mais je pense que la compréhension va venir au gros bon sens pour tout le monde, les gars. Hein, Guillaume, en conclusion là-dessus. Là.
Comme je pense que le point important que Max a amené, que je trouve super bon, c'est de dire c'est pas une situation, on n'est pas en chicane. T'sais, c'est une situation de pandémie mondiale où ce que tous les milieux à travers le monde doivent prendre des coupures de salaire. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. On a l'opportunité d'avoir un travail, d'y aller. Puis on dit pas, on te réduit ton salaire, on te coupe de l'argent. Non, on la diffère dans trois ans, peu importe combien de nombre d'années ça va prendre. C'est de l'argent que tu vas avoir quand même. Donc, je pense qu'à un certain moment donné, on se doit du côté des joueurs d'être compréhensible et de comprendre que c'est des gros bidous qu'on parle. C'est de la grosse argent. Puis, on se doit d'aider certains. Tu sais, je pense à Ottawa, à Eugene Melnyk, qu'on a entendu toutes les déboires et les situations. Je suis certain que les joueurs ont envie d'aider quand même, même si on entend qu'il est spécifique. Tu sais, il y a des situations où ce qu'on doit d'aider des équipes. Puis, je pense que ça fait partie du rôle des joueurs. Parce qu'on n'est pas en chicane, puis on te demande pas de couper ton salaire, on te demande de le différer. Je pense qu'on n'a pas le choix du côté des joueurs d'embarquer.
On se dirige vers une division canadienne. Je sais pas si vous avez pris connaissance des propos du propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, que c'est pas un scénario, là, lui, qui le favorisait parce qu'il considère que ça va être une année difficile pour son équipe. Je sais pas s'il voulait les jouer à l'ombre, ces matchs, contre des équipes américaines, avec des matchs qui retiennent pas trop l'attention d'un public national ici, coast to coast, d'un océan à l'autre au Canada. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Mais il semble qu'on s'améliore à jouer contre des bonnes équipes. Mais les gars, qui, dans un classement d'une division canadienne, qui finira au dernier rang? Est-ce que ça serait nécessairement Ottawa?
Ben, je pense qu'à chaque année, on a des belles surprises et tout ça, mais on s'entend qu'il faut être honnête dans la situation d'Ottawa. On est en reconstruction, on a des jeunes joueurs, on vise pour le futur. Je pense pas que c'est pour cette année qu'on prévoit gagner la Coupe Stanley. Puis, comme tu viens de le mentionner, Mario, pourquoi pas jouer contre des très bonnes équipes? Parce qu'on s'entend que la division canadienne, il y aura de très, très bonnes équipes. Puis pourquoi pas les jouer régulièrement? Puis on comprend qu'il y a une petite rivalité là dans les marchés, que ce soit de jouer plus souvent contre Toronto pour les Sénateurs et tout ça contre le Canadien. Je pense que ça va créer des belles rivalités. Puis je pense que c'est très bon pour le hockey pour cette année. Puis ça fait quelque chose de nouveau aussi. Tu sais, des fois, il faut prendre le côté positif d'une situation. En ce moment, on le sait, on l'a mentionné plus tôt, c'est difficile, la pandémie et tout ça, mais pourquoi pas essayer de tirer un petit côté positif qui est, on va avoir du nouveau dans la Ligue nationale, justement, pour mm-hmm. peut-être juste une saison avec la division canadienne.
Ben moi j'aime ça, Guillaume. Ouais. Toi tu vois Ottawa où? Tu vois le Canadien où dans une division canadienne?
Ben je pense que oui, les Sénateurs. Même si on fait des changements intéressants, là, tu sais, tout dépend comment Matt Murray va qu'est-ce qu'il va donner à l'équipe. Est-ce que Galchenyuk peut avoir une éclosion? Les jeunes joueurs qu'on a repêchés. Je pense qu'on va avoir une équipe intrigante du côté des Sénateurs pour moi. Mais je crois quand même qu'on est la moins bonne équipe sur papier de cette conférence-là. Mais je comprends pas les commentaires d'un propriétaire d'une équipe. Mm-hmm. T'as la chance de créer des rivalités contre des équipes canadiennes qui ont probablement les meilleurs fans à travers la ligue, qui suivent leur équipe, qui vont t'acheter des billets quand leur équipe locale vont venir, qui vont créer de la bagarre, de l'animosité, puis qu'on va sentir vraiment quelque chose quand même ton équipe va s'en aller. Moi, je comprends pas comment un propriétaire peut parler comme ça. Je comprends que les équipes canadiennes sont très fortes dernièrement, là, avec les changements qui ont été faits. Si je parle équipe par équipe, tu sais, je pense que les Flames sont très, très, très solides. Ça va être difficile à tasser, je pense que leur équipe, on a parlé d'Ottawa, donc le Canadien, je pense que ça va être quatrième, peut-être troisième, tu sais, je vois les Leafs, je vois les Canucks qui ont des équipes intéressantes, les Jets de Winnipeg qui ont une équipe intéressante, donc peut-être quatrième, troisième du côté du Canadien.
Là. OK, 3-4, moi j'y vais, avec, en principe, en saison régulière, Toronto devrait être premier. Calgary, Maxime, toi, qui tu mets premier? Toronto, nécessairement, ou Edmonton? Ça fait des années qu'on les attend au sommet, là, dans une division canadienne. Qui vois-tu dominer une division canadienne?
Là, Mario, je pense qu'on va s'estiner parce que mon opinion là-dessus, j'aime pas la structure des équipes comme Toronto et Edmonton. Oui, on a les meilleurs superstars, comme on peut dire, dans l'alignement, les McDavid, les Matthews, Marner, Draisaitl, mais je trouve que la structure d'équipe, côté défensive, des joueurs qui sont difficiles à affronter, présentement, j'aime mieux le Canadien de Montréal. Je trouve qu'on est plus balancé. Les quatre trios, les trois paires de défenseurs, on s'entend que notre duo de gardien de but est très, très, très solide. Le meilleur dans la Ligue nationale de hockey. Donc, si tu me demandais en ce moment de choisir entre Toronto ou Montréal, je vais prendre Montréal, puis pas juste à cause que je suis un fan, puis j'ai joué là.
honnêtement, c'est une méchante bonne division, là. Tu sais, pour réussir à finir premier là-dedans,
mais ça...
faut que t'en gagnes des matchs, puis ça va être des matchs qui sont difficiles. Là. Calgary est pas facile à jouer. Winnipeg est extrêmement dur à jouer contre. Vancouver, ça patine, ça score des buts, puis ouais. ils ont un très bon gardien. Honnêtement, pour finir premier de cette division-là, du côté de Montréal, ça va en prendre des victoires, puis il y a des équipes très talentueuses, là. M'a dire, tu pognes un match dos à dos, Calgary, puis après ça, si t'en vas à Winnipeg, là, ça va être tough sur le body quand même. Là.
Mais Maxime, toi, tes voix, là, on peut coller Canadien en première position. On a le droit de changer d'idée d'ici au 1er janvier, là, mais en ce moment, tel que tu vois ça, tu vois Canadien en haut de cette division-là?
Je suis pas gêné, Mario, de dire que je les vois dans les deux premiers, dans la division canadienne, parce que c'est quelque chose d'avoir les joueurs sur papier, l'alignement, puis tout ça.
La formule.
Moi, je vais y aller côté engouement. Tu sais, je pense qu'on le sait qu'il y a une nouvelle énergie dans le vestiaire du Canadien. On est conscient de tout le mouvement qui s'est passé, là, qui est arrivé cet été. Les nouveaux joueurs qui arrivent, de l'expérience, des gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley. On a le duo dans le filet, comme je l'ai mentionné. Tout le monde, maintenant, a des attentes envers le Canadien de Montréal. Puis tout le monde dans le vestiaire, ça, je peux te garantir à 100%, les joueurs le savent. Ils savent qu'ils doivent performer cette année. Marc Bergevin le sait que l'équipe doit performer cette année. Donc, l'énergie qui sera amenée au camp d'entraînement dès le départ, tu sais, on l'avait mentionné au début, c'était no excuses, là, en anglais, pas d'excuses quand Marc Bergevin est arrivé à Montréal.
Oui.
Mais là, c'est pour vrai. Je pense que là, il n'y a pas d'excuses. Puis c'est le temps pour le Canadien d'avoir une grosse saison.
Et puis Mario, pour revenir à ta première question, est-ce qu'on doit mettre les Sénateurs derniers? Si on s'écoute parler depuis 5 minutes, je pense que les arguments vont de soi.
Ouais, finalement, on commence à comprendre Eugene Melnyk. Finalement, c'était pas si nono que ça, ce qu'il disait. Hey, puis juste pour ajouter, finalement, Maxime, à ton optimisme, quand tu prends connaissance des propos de Brandon Gallagher, qui dit de Romanov, parce qu'il l'a vu pratiquer dans la bulle, même s'il jouait pas, donc il a dû bagarrer peut-être pour quelques possessions de rondelles dans le même coin, dans des entraînements, j'imagine, il levé au gym, il dit les gens réalisent pas à quel point il est bon et il est fort. Fait que lui, il semble penser qu'il va percer tout de suite là, la Ligue nationale, puis qu'il va jouer. Puis c'est sûr qu'une recrue qui arrive avec de l'enthousiasme, qui est bon, ben ça améliore ton équipe. Quand t'as un ou deux candidats au titre de recrue de l'année dans ton club, ça fait de ton équipe une meilleure équipe. J'hésite, je suis quelque part entre les deux, les boys. Maxime, tu dis 1-2, Guillaume dit 3-4, je vais dire 2-3. Mais...
j'aime ça.
Regarde, quelque part. Fait qu'à la gang, on pourrait dire qu'on s'est pas trompé. T'sais.
On est tous gagnants.
On est padés.
On va trouver le moyen.
S'ils finissent en bas d'Ottawa, par exemple, on n'aura pas de l'air de grand Nostradamus du hockey, les boys.
Non, mais on va avoir du stock à parler parce qu'on va avoir du monde engagé.
Tu peux être sûr. Et parlant des propos de Brandon Gallagher, au retour de la pause, les gars, j'aimerais ça vous entendre commenter ses propos. Il parlait de ce qu'il a vécu dans la bulle, des blessures et tout ça. Et il y a une fin phrase sans remettre. Il dit quelque chose, puis je sais que c'est vrai dans la loi du sport, là. Il dit, quand tu joues blessé, là, tu gagnes énormément, tu gagnes beaucoup le respect de tes coéquipiers. Quand tu joues malgré la douleur. Et jusqu'à quel point, oui, c'est honorable, jusqu'à quel point c'est un piège et que tu peux coûter, ou tu peux même affecter ta propre carrière à vouloir peut-être aller chercher le respect des autres, à jouer malgré la douleur. J'aimerais bien ça vous entendre dans quelques instants. On est avec Maxime et Guillaume de La Poche Bleue, de retour après la pause.
La Poche Bleue, une présentation de La Cage chez vous et d'AutoHebdo.net. La Poche
Bleue. Il y a toujours des histoires autour des gars qui jouent blessés en séries éliminatoires, qui bloquent des lancers pareils, qui reviennent au banc rien que sur une patte. Puis j'entendais et je lisais les propos surtout de Brandon Gallagher qui a rencontré les médias au cours des dernières heures et qui disait que quand on joue en faisant référence à ses douleurs à lui, puis il y en a eu beaucoup en carrière, il dit quand on joue malgré la douleur, on va chercher beaucoup de respect de la part des coéquipiers. Maxime, dans un premier temps, jusqu'à quel point, oui, c'est sûr que c'est honorable, puis c'est admirable, mais y a-t-il un piège à vouloir jouer malgré la douleur, puis parfois même être moins efficace qu'un gars qui te remplaçait, mais qui te remplacerait dans l'alignement, même s'il n'y a pas un gros nom, mais qui jouerait en pleine santé, parfois, là?
Oui, je pense que oui, Mario. Puis écoute, il y a tellement de facteurs dans cette décision-là. Premièrement, c'est sûr que la première chose qui te passe dans la tête en tant que joueur, c'est que tu veux jouer pour gagner. Tu sais que tu veux aider l'équipe. Maintenant, si t'es blessé, t'analyses beaucoup de choses. Le respect de tes coéquipiers, ça peut t'amener à ton prochain contrat et tout ça. Je pense que la réaction normale d'un joueur, c'est de jouer malgré la blessure puis d'essayer de son mieux jusqu'à temps que tu réalises que tu nuis à l'équipe. Je pense que quand tu nuis à l'équipe, là, à un moment donné, tu dois te regarder dans le miroir puis dire, écoute, j'ai tout donné ce que j'avais à donner. Maintenant, de moi-même, je vais aller voir l'entraîneur ou le directeur général puis dire, écoute, en ce moment, je suis plus capable. J'ai donné ce que j'avais à donner. Puis ça, les joueurs respectent ça. J'ai joué souvent blessé. Les coéquipiers te regardent puis sont fiers de toi. Ils savent que ce que tu fais en ce moment, c'est pour le logo de l'équipe. C'est pour gagner. C'est vraiment pas pour ta personne à toi. C'est pour les boys à côté de toi. Par contre, à un moment donné, quand c'est une blessure qui pourrait mettre fin à ta carrière, tu sais, on parle souvent des commotions dans la Ligue nationale et tout ça, je pense que là, ça doit être la décision du joueur de penser à lui-même, à son futur, la famille, puis tout ça. C'est pas facile quand t'es jeune, parce que t'es un jeune joueur, t'as pas de famille, pas de femme, pas d'enfant, peut-être que tu vois pas ce qui pourrait arriver dans 10 ans, mais c'est une chose très importante, c'est de protéger sa tête. Les fractures dans les jambes, dans les doigts, puis tout ça, ben là, ça devient une décision personnelle. Je vais t'avouer que j'ai rarement vu un joueur dans la Ligue nationale de hockey avoir une blessure mineure puis décider qu'il prenait des petites vacances payées.
Mm-hmm. On a vu Shea Weber jouer avec le pied cassé pendant le premier tiers de la saison il y a 2 ans. Guillaume, toi, est-ce qu'il y a des histoires qui te viennent en tête en parlant de ça, de jouer malgré la douleur pour aller chercher le respect des coéquipiers?
Ben, je suis d'accord avec Max dans le sens qu'on joue tous blessés. Là. C'est à partir de la game 2, t'as tous des bobos. Ça, on s'entend là-dessus. Les blessures, comme Max a dit, les commotions, ces choses-là. Moi, j'ai toujours été honnête là-dessus. Je voulais pas prendre de risques face aux commotions. Mais le reste, de jouer avec un mal d'épaule, de jouer avec une épaule, tu sais, mon épaule, je lève le bras, souvent elle débarque, mais tu sais, ça, t'as replace, puis t'embarques dans la game, puis tu joues. Tu sais, ça fait partie de la game. Puis il y a bien des blessures aussi que, tu sais, des fois, on juge le joueur sans le savoir, puis qu'on l'apprend
ça,
en fin de saison.
Vrai, t'sais,
combien de fois qu'on a dit, ah, il est donc même pas bon depuis un mois à Armia, puis on arrive, puis il joue avec une brace, tu sais, il a le genou magané ou peu importe.
As-tu vu des gars qui jouaient puis t'en revenais pas qui jouaient parce que t'étais conscient du problème qu'il y avait, Guillaume, ou même Maxime peut-être là-dessus, je veux dire à l'intérieur d'un vestiaire, tu sais, des fois...
J'en ai une anecdote, moi, là-dessus, Mario. Je sais pas si Guillaume va s'en rappeler. J'ai déjà vu Mathieu Dandonneau se fracturer le poignet puis finir sa présence sur la patinoire, jouer le 1 contre 1, récupérer la rondelle, puis après changer, puis aller se faire régler son problème.
Aïe, aïe.
Francis Bouillon. Je pensais que t'allais dire scorer. J'étais comme, ah, oh, ouais?
Frankie Boo, quand il était revenu pour les séries, ouais. Là, que je sais, tu sais...
Ça avait pas de sens. Quand il est revenu, on se demandait tout ce qu'il faisait là. Tu sais, honnêtement, il était... Mais tu sais, ça, c'est... Des blessures comme ça, c'est... Il vient à un certain moment donné. Quand il y a aussi la, tu sais, Max, il en a parlé brièvement tantôt. Tu sais, quand t'as un contrat aussi, ça change la donne dans le sens que si j'ai un contrat de 6 ans, je suis pas mal moins stressé. Est-ce que mes performances soient peut-être un peu moins bonnes ou,
tu sais,
mais si j'ai mal au genou puis je patine à 50%, puis c'est mon année de contrat que je tombe free agent, ça se peut que ma tolérance à la douleur puis le fait de jouer avec mes chums, elle change un petit peu. Tu sais, c'est la situation du joueur. Quand t'es jeune, tu vas dire je suis correct puis tu veux jouer parce que c'est l'opportunité d'être à la patinoire. Donc, je pense que cette situation-là est évaluable dans chacune des parties de ta carrière. Tout ce qui est blessure, tu sais, genou, épaule, main, peu importe. Moi, c'est juste la tête que je prends pas de chance. Le reste, là, on est capable de jouer avec des douleurs. Je pense que ça fait partie de notre sport. C'est à partir de là que tu comprends que tu fais du sport professionnel. C'est quand tu es habitué d'endurer la douleur. Pas juste sa patinoire, mais quand tu sors puis tu t'en vas chez vous puis tu as de la misère à marcher puis tu mets ta jambe dans un angle parce que tu sens ton aine ou sinon, tu sais, c'est toutes des situations comme ça que tu es habitué par la suite comme joueur. Là.
Une autre histoire qui me revient, mais c'est une autre façon de le regarder. Mike Babcock qui faisait jouer Jake Gardiner il y a quelques années avant d'être clairé à Toronto. Gardiner qui était à 40%, puis Babcock disait, mais les journalistes lui demandaient, mais pourquoi tu fais jouer Gardiner? Il est blessé, t'es à 40%. Il dit, j'aime mieux son 40% à lui que le 100% du gars qui le remplacerait. Fait que ça.
C'est le fun, le gars.
C'est le fun si c'est toi qui le gars laissé de côté. Tu dis, ouais, le coach, il pense vraiment que je fais partie des plans pour la saison prochaine. Hein?
Ouais, il m'aime beaucoup.
Les gars, on a parlé de mentor la semaine passée. Permettez-moi de revenir là-dessus un peu. Ça me frappait, puis je me dis, il y a peut-être quelque chose là. Tu sais, les organisations sont souvent tentées, par exemple, si tu repêches un jeune Russe, d'avoir un Russe vétéran, tu sais, ou c'est un jeune Finlandais, d'avoir un autre Finlandais. Je dis pas qu'elles le font toutes, c'est tentant. Parce que ce qui me fait penser à ça, c'est quand je vous ai parlé de mentor, vous m'avez parlé de Francis Bouillon, vous m'avez parlé de Bégin dans une certaine mesure aussi, vous avez mentionné Patrice Brisebois également. Puis finalement, je me disais, les gars, on mentionnait des gars québécois. Et donc, puis je pensais au jeune Michak, repêché par le Canadien, qui a l'occasion de jouer avec Plekanec actuellement en République tchèque. Pour que quelqu'un ait un ascendant sur nous, est-ce que ça aide qu'il vienne de la même place, qu'il parle la même langue, en quelque sorte?
Bon, je pense que oui, Mario. C'est pas une question de langue. Je pense que c'est une question de... je te donne un exemple. Là, c'est un peu banal. Tu arrives dans un souper où tu connais pas personne, puis t'es un fanatique de hockey. Puis là, il y a une personne qui commence à te parler de hockey. C'est sûr qu'automatiquement, tu crées un lien, puis tu commences à t'attacher à cette personne-là dans la salle. Puis là, tu sens comme le sentiment d'appartenance ou tu te sens à l'aise de parler d'un sujet que tu connais. Donc, c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est un gars comme Plekanec, il a vécu la Ligue nationale, le jeune l'a probablement regardé, un gars de chez lui, c'est un exemple pour lui, c'est un modèle, je pense que l'approche est très facile. Est-ce qu'il y a des vétérans non québécois dans le cas pour moi, Guillaume, qui nous ont énormément aidés dans nos carrières? Ça, c'est sûr et certain. Je me rappelle d'un gars comme Sheldon Surrey, Greg Rivet, ils m'ont énormément aidé à mon arrivée dans le vestiaire. Ils voulaient que je me sente à l'aise puis que je sois moi-même à 100%. Ils m'ont amené dans les restaurants le soir et tout ça. Ils ont vraiment pris soin de moi. Mais c'est sûr qu'il y avait une chimie naturelle, là, les gars comme Francis, Steve, mm-hmm. Breezer, Mathieu Dandonneau. Je pense que tu rentres dans le vestiaire puis on dirait que tu connais déjà ces gars-là parce que d'une certaine façon, tu les vois plus souvent l'été dans ton entourage. Oui. Si tu patines avec les gars pour t'entraîner puis tout ça. Donc, c'est beaucoup plus simple, mais je pense que au total, c'est vraiment une question d'avoir des bons vétérans dans le vestiaire ou pas, peu importe le langage.
Je pense que aussi, Mario, tu sais, surtout pour nous, des jeunes Québécois, quand on est rentré. Tu sais, ça fait 3, 4, 5 ans, tu regardes des Francis Bouillon, des Bégin, des Dandonneau, ou des peu importe, à travers la Ligue nationale, ça fait longtemps qu'ils sont là, t'entends leur nom. Je pense qu'il y a une confiance qui est établie parce que tu connais le gars par la bande. Donc, quand tu rentres, ça devient facile d'aller vers eux et de leur faire confiance, même si au final, tu les connais pas plus que le Russe à côté. Mais il reste que, je pense que la barrière du langage... Tu sais, moi, mon anglais, je suis rentré dans la Ligue nationale, là, mon anglais, là, et puis même à ce jour, là, tu me demandes de faire une entrevue en anglais, je peux pas dire que je suis parfaitement à l'aise, là, loin de là même. Fait que, tu sais, d'aller approcher un gars en anglais, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais avec le Wild, on avait beaucoup de gars de l'Ouest canadien puis d'Américains, quand ça parlait ensemble, puis des slangs, puis des fois, je pognais 50% de la conversation. Tu sais, fait que, mets-toi à 18, 19, 20 ans, rentrer, aller voir un vétéran que tu comprends pas très bien, poser des questions, essayer de te faire aider, mm-hmm. ça peut être plus difficile.
Plekanec, est-ce que c'est un facilitateur dans un groupe de hockey, dans un club de hockey, les gars? C'était-tu un bon vétéran? Il se faisait ramper souvent avec son col roulé parce que dans le fond, lui, il souffrait du fait que... Non, mais il souffrait du fait que il y avait pas de meilleur centre que lui dans l'organisation, mais c'était pas de lui en vouloir à lui. Mais vu de l'intérieur, Plekanec, il était perçu comment?
Ben moi, je l'ai dit souvent à des amis, aux gens qui s'estimaient avec moi. Moi, je pense que c'est un des gars qui était le plus sous-estimé dans la Ligue nationale de hockey. C'est un gars-là joue dans les deux sens de la patinoire. Il est bon sur les mises en jeu. Très intelligent défensivement, en désavantage numérique. Il y a eu des grosses saisons quand même offensivement quand il jouait avec Kovalev et ces gars-là. C'est un gars qui est capable de performer dans les deux sens de la patinoire. Je pense qu'il a grandement aidé le Canadien pendant plusieurs années. Puis je me rappellerai toujours, moi j'arrive très tôt à l'aréna, mais lui, Thomas était tout le temps là avant moi.
Ah
je
oui?
peux te le garantir, il était dans le gym, il faisait de l'extra, il travaillait sur le vidéo, sur les mises en jeu. Il faisait tout pour être la meilleure version de lui-même possible. Je pense que c'était un exemple par sa façon de se comporter pour les jeunes joueurs.
Puis c'était pas un gars qui prenait de la place, par exemple. T'sais, c'était faut pas. Il était pas dans le vestiaire à parler. Puis c'était un gars qui était à sa place, qui était structuré, puis qui montrait l'exemple par l'exemple. T'sais, c'était un gars travaillant qui, comme Max a dit, qui arrivait à l'heure d'impratique, mm-hmm. t'as rien à dire. Premier embarqué, dernier. C'est le format idéal d'un professionnel.
Tout ce que tu dis, tout ce que tu demandes à un jeune joueur quand il est repêché, de travailler, de faire de l'extra après les entraînements, de faire des workouts dans le gym d'extra, lui, il faisait tout le temps. Il a jamais triché dans sa vie de joueur de hockey professionnel. Il travaillait sur chaque petit point technique qu'il pouvait améliorer pour être le meilleur joueur possible sur la patinoire.
C'est un hommage à Thomas Plekanec de la part de nos gars de la Poche Bleue, Maxime et Guillaume. Je pense qu'on va lui faire parvenir l'enregistrement avec traduction sur Google Translate, pourquoi pas. Et j'espère qu'il en dit autant de vous autres, les gars.
J'espère.
Probablement. On avait une bonne relation avec lui, Guillaume et moi. Je pense que, comme j'ai dit, ça a été un bon coéquipier. On a eu beaucoup de plaisir avec lui. Guillaume, on jouait aux cartes avec lui dans l'avion. On riait. On a eu du fun. Ça a été un bon coéquipier. Puis c'est pour ça que plusieurs fois, j'ai entendu des commentaires négatifs sur lui. Puis ça me faisait mal d'une certaine façon. Parce que quand tu sais de l'intérieur du vestiaire qu'un joueur est très, très important pour l'organisation. Puis je pense qu'il l'a démontré souvent, son amour pour le Canadien de Montréal. Des fois, faut peut-être prendre un petit moment puis analyser ça, se rappeler du passé.
Allez, les gars, encore beaucoup de sujets que j'aurais voulu aborder, mais toute bonne chose à une fin. Puis ce n'est qu'un début pour vous parce que vous vous préparez pour le balado. Évidemment, La Poche Bleue ce soir, accessible sur toutes les plateformes, YouTube notamment, également C23 ici via Cogeco. Et Maxime, parle-moi de vos deux pattes comme invités ce soir.
Ouais, on se prépare, Mario. Gros show ce soir avec Patrick Côté puis Pat Brisson. Bon timing avec Pat Brisson, là, tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. On va en savoir plus sur les chiffres, les salaires et tout ça. Fait qu'on on va y poser les bonnes questions.
Bien hâte de regarder ça. Je vous retrouve en fin de soirée. Merci Guillaume, merci Maxime et bon podcast, les gars.
Salut Mario.
Bye. Bye.